Yann Solo. Je suis le capitaine du Millennium Condor. Chico dit que vous demandez à louer un appareil pour aller à Aldoran, c'est ça?
Oui, c'est cela. Si cet appareil est rapide.
Si mon appareil est rapide? Vous n'avez pas entendu parler du Millennium Condor? C'est ce type d'appareil qui a fait le raid sur Kesselring en 20 parsecs. Je bats les engins de l'Empire en vitesse pure.
Bienvenue au deuxième épisode de Millennium Condor Balado Diffusion, une émission en français dédiée au jeu de miniatures X-Wing de Fantasy Flight. Vous y trouverez des discussions positives et sans prétention de notre point de vue semi-compétitif. Je suis Bruno Lavigueur et c'est avec plaisir que je retrouve votre co-animateur Julien Dor.
Bonjour Bruno, bonjour à tous.
Si tu veux Julien, je te propose de commencer tout de suite notre premier petit bloc d'actualité.
Oui, pas de problème, vas-y.
OK, de mon côté, moi, j'aimerais commencer par remercier toutes les personnes qui nous ont laissé des commentaires positifs sur le groupe de discussion Millennium Condor Balado Diffusion ou sur les autres pages là, de groupe de X-Wing. Je prends pas le risque de toutes les nommer parce que je risque d'en oublier, il y a eu plusieurs. Mais c'était quand même intéressant, Julien, je trouve, de voir qu'on a déjà plus de 30 personnes qui sont membres du groupe de discussion puis qui potentiellement vont suivre notre épisode.
Oui, oui, absolument. C'est plaisant d'avoir fait quelque chose qui a priori a semblé quand même plaire. C'est le fun. Espérons que ce deuxième épisode continue à plaire aux gens.
Oui. Côté activité de jeu X-Wing, pas grand-chose à mentionner de mon côté. On est dans la Ligue. On arrive à la fin de la cinquième saison de notre Ligue. Les accomplissements n'ont pas été favorables pour moi cette saison-ci. J'ai eu beaucoup de difficultés, mais beaucoup de plaisir, comme d'habitude. Côté compétitif, j'aimerais ça être capable de me libérer pour aller faire le tournoi au Jujube le 1er juillet. Sinon, c'est pas mal ça. Toi, de ton côté?
De mon côté, j'ai un nouveau micro. J'espère que ça va s'entendre à l'enregistrement. Alors par contre, ça va pas améliorer la qualité de mes commentaires, mais au moins les gens pourront mieux les entendre. Pour revenir côté X-Wing, continue aussi moi les parties dans la ligue de X-Wing le mardi. Moi, les accomplissements se sont plutôt correctement passés. Il m'en reste un à essayer de placer sur mon dernier match. Ça va être tendu. Sinon, au niveau tournoi, pour le moment, rien de planifié. Peut-être le Jujube aussi le 1er juillet, si au niveau de mes autres obligations, tout est fini d'ici là. Sinon, je vais peut-être essayer de tenter de faire un unboxing vidéo du Ciroc. Mais vu que c'est mon premier tournage, j'ai une bonne caméra, un micro correct, je vais essayer de faire quelque chose, mais je garantis rien. Si jamais c'est potable, je le diffuserai.
C'est quoi le but, Julien? C'est-tu de faire une analyse de ce qu'il y a dedans ou juste montrer ce qui se trouve dans le box?
C'est juste de montrer ce qu'il y a dedans. Là, l'idée, c'est juste, moi, mon côté, de voir un peu comment ça se passe. Je vois beaucoup sur YouTube des gens qui font des vidéos, etc. C'est vraiment plus dans l'idée de comprendre le fonctionnement, comment on fait ça. Donc, ouais. C'est plus de plaisir personnel que vraiment un objectif d'information. Quoi.
Génial.
Sinon, j'en profite pour féliciter un joueur qui est François Beaumont, qui vient de gagner le Store Championships du magasin de jeux Neo Valhalla à Saint-Jean-sur-Richelieu.
Ouais, à mentionner qu'il vient de Québec, il est descendu... Il a fait 2h30 de route pour venir battre nos joueurs locaux.
Oui, oui, oui. C'est un magasin auquel on va de temps en temps jouer. Donc, voilà. Donc, félicitations, François.
Oui. À mentionner, Jean Coilier est arrivé deuxième à ce tournoi-là aussi.
Ça présage du gros niveau pour ce tournoi. Qui s'est passé?
Je suis un peu content de ne pas avoir participé. OK. Ben, si c'est tout pour toi, Julien, je te propose qu'on passe au bloc principal.
Pas de problème. On est parti.
J'espère que tu es prêt, Julien, parce qu'on a beaucoup de contenu. C'est des sujets de discussion un peu délicats. Notre bloc principal, c'est on veut discuter aujourd'hui de la tricherie. Je pense que vous le saviez parce que plusieurs personnes nous en ont parlé sur les réseaux sociaux, mais aussi en personne. Donc, ça nous a mis un peu de pression, ça nous a forcé à nous préparer davantage. Mais attention, là, notre but, c'est pas de faire la promotion de la tricherie ou encore de donner des trucs aux tricheurs. Au contraire, notre but, c'est d'essayer de comprendre le phénomène, de comprendre pourquoi ça arrive, comment on peut le reconnaître en tant que joueur, comment on peut voir de la triche. Puis surtout, comment on peut se défendre face à ça, puis comment on peut réagir face à de la triche. Ce qui nous a inspiré pour ce thème de discussion, c'est l'incident qui est arrivé au dernier mondial. Je prends quelques minutes pour vous décrire ou vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé si vous n'êtes pas au courant. Le mondial, c'est 2 jours de tournoi. Des fois, je pense que certaines compétitions peuvent même aller jusqu'à 3 avec un vendredi soir, un samedi toute la journée. Il faut que tu te qualifies pour le dimanche, puis le dimanche, ben, c'est les dernières rondes et la finale. Dans la première journée, les parties étaient rediffusées en direct sur Twitch et un joueur a été vu par toutes les personnes qui regardaient le match en direct en train de changer sa manœuvre. Le joueur a pris sa roulette pendant que son adversaire était en train de déplacer ses vaisseaux. Avec son pouce, de façon plus ou moins discrète, il a changé sa manœuvre. Puis là, ça l'a fait que quand il a déplacé son vaisseau, ben, il n'y a pas eu de collision, il n'y a pas eu de bump. Fait que ça lui a permis d'avoir son action puis de faire ses attaques, puis ainsi de suite. Ce joueur-là a gagné la partie, le tricheur, mais là, ça a été capté sur vidéo, donc ça l'a amené tout un... un émoi, si on veut. Fait qu'à partir de ce moment-là, c'est parti dans tous les sens. Les officiels de la FFG ils ont géré ça assez maladroitement en interprétant l'intention non malicieuse du joueur plutôt que le fait de l'infraction. Ils se sont dit, OK, ils voulaient pas vraiment tricher, c'est discutable. Ensuite de ça, ben puis c'est pas dans ça qu'on veut rentrer de toute façon. Puis après ça, ben le web ou la toile s'est enflammé, là. C'est parti dans tous les sens avec les internautes. Julien, est-ce que tu veux ajouter quelque chose à ça?
Bah, de mon point de vue, ce qui a été très étonnant de la part d'FFG, c'est la non-réaction, plutôt la lenteur de réaction. On ne parle pas ici quand même d'un petit tournoi de quartier ou d'un petit tournoi qu'on pourrait faire juste en bas de chez nous. C'est quand même un des plus gros tournois, si ce n'est le plus gros tournoi de X-Wing chez le fabricant de X-Wing. Ce qui gêne ici le plus, c'est qu'on parle quand même d'un cas de triche avéré avec preuve. C'est quand même le cas idéal, hein. Il y a la vidéo, il y a le... Enfin, je veux dire, on est dans un cas idéal pour juger, en fait, un cas de triche. Mais on a l'impression quand même que les membres de FFG n'avaient pas anticipé le fait qu'on puisse tricher pendant un tournoi. Donc, j'ai pas l'impression... Je pense qu'ils n'étaient pas prêts
ou qu'on puisse se faire
à
prendre.
Cette situation. Ouais, bah oui. Ce qui fait que cette espèce de flottement assez étrange, c'est ce qui a suffi pour embraser la communauté compétitive de X-Wing. Quoi. Oui. C'est ça.
Donc, d'où vient l'importance de mettre les bases pour notre discussion d'aujourd'hui? On veut vraiment pas embarquer dans toutes les interprétations. Est-ce que c'était volontaire? Est-ce que c'était pas volontaire? Est-ce que c'était un oubli? Est-ce que c'était de la nervosité? Où on veut pas non plus tomber dans l'interprétation des sanctions. Ça a été assez sévère, pas assez sévère, patati et patata. C'est vraiment pas là qu'on veut aller. Nous, on part notre discussion avec des faits de ce qui a été observé. Une infraction suivie d'une conséquence. Dites-vous, là, c'est comme si je brûlais une lumière ou un feu rouge en auto. Le policier m'arrête, là, je dis au policier, « Ah, excuse-moi, j'ai oublié d'arrêter. J'étais distrait, j'étais nerveux, j'ai manqué mon coup. » C'est clair que le policier va pas me dire, « c'est vrai, t'avais pas d'intention malicieuse. Tu voulais pas vraiment faire une infraction. » C'est pas ça, là. On travaille avec des faits. Donc, dans un contexte compétitif, une infraction apporte une conséquence, peu importe l'intention. T'as une infraction, t'as une conséquence. Dans une partie relaxe ou casual ou de ligue, c'est autre chose, là. On joue entre amis puis on s'amuse. C'est pas le même objectif. Bon, pour le bien de notre discussion sur la tricherie, on prend pour acquis que l'infraction ou l'acte illégal, l'actus reus, est volontaire. En posant un geste ou en omettant de poser un geste. Et qu'on est en présence de mens rea. D'une intention. Ici, si on était à la cour, on dirait une intention criminelle. Vous me comprenez? Il y a eu une infraction, c'était volontaire. Le gars a voulu tricher pour se donner un avantage durant la partie. Ça te va, Julien?
Oui, ça me va. Je pense que vraiment, le côté important, c'est vraiment l'intention qui est important. Je pense, pour moi, en tout cas, comment je le ressens, c'est qu'il faut vraiment qu'il y ait une attention de transgresser les règles. Cette notion d'intention, et d'ailleurs, c'est ce qui est repris dans beaucoup de sports. Alors, vu qu'on est au Québec, je vais prendre l'exemple du hockey sur glace. Au hockey sur glace, on ne peut pas marquer volontairement avec autre chose que son bâton de hockey. Par contre, un but peut être accepté si jamais la rondelle a rebondi sur toi et que involontairement tu lui as fait franchir la ligne des buts. En gros, durant la reprise vidéo, ce que les arbitres vont essayer de déterminer, c'est est-ce qu'il y a eu la volonté du joueur de faire rentrer. C'est sûr que si on kick avec le poing ou qu'on kick avec le pied, qu'on va donner un coup de pied avec le patin et que la rondelle rentre dans le but... le but sera refusé. Donc cette intention de tricher, c'est, je pense, le cœur même de cette notion. C'est vraiment l'intention.
Oui. Puis nous, notre discussion, ben, on prend pour acquis que cette intention était là.
OK.
Bon, pour bien se comprendre aussi, il faut qu'on soit capable d'interpréter les mots de la même façon. Faut que qu'est-ce qu'on va dire, veulent dire la même chose pour tout le monde. Donc Julien, si tu veux nous définir quelques mots.
OK, donc moi je vais définir déjà les mots latins que mon très cher collègue Bruno a étalé tout à l'heure. Donc tout à l'heure Bruno a dit actus reus, qui en fait juste signifie l'acte de culpabilité. Après on a parlé de mens rea, qui est en fait l'intention de commettre une infraction, donc toujours dans cette histoire d'intention. Je voulais aussi revenir sur la définition même du mot triche, qui est finalement le cœur de notre podcast aujourd'hui. Donc si je prends la définition du dictionnaire Larousse, tricher c'est enfreindre les règles pour gagner. C'est une définition qui est un petit peu complétée par tricher, c'est enfreindre certaines règles, certaines conventions explicites ou d'usage en affectant de les respecter. Donc il y a vraiment toujours dans les règles cette notion de se donner un avantage volontairement.
Ben écoute, ça met les bases et je te propose avec ça qu'on rentre dans le vif du sujet. On attaque, on fonce. Ça te va?
Absolument.
OK.
On décolle.
On décolle. Comment ça prend forme dans notre magnifique jeu de X-Wing? Pour essayer de décortiquer ça et que ça soit compréhensible pour tout le monde, on va aborder ça avec trois petits blocs. Le premier, c'est dans la tête d'un tricheur, avec des exemples dans X-Wing. Oui, on va faire de la psychologie à Saint-Saëns, mais ça va quand même bien définir et cerner notre problématique. Après ça, on va regarder c'est quoi les exemples de triche dans X-Wing, comment ça prend forme. Puis encore là, c'est pas dans le but de donner des trucs aux tricheurs, au contraire, c'est de donner des lunettes pour le permettre de voir quelqu'un qui triche, pour être capable de détecter ces comportements-là. Puis on va finir avec comment se protéger de ça. Donc, dans la tête d'un tricheur, en principe, les joueurs, ils savent tricher. La question, c'est comment ils vont décider de passer à l'acte ou non. Est-ce que je vais tricher ou je ne vais pas tricher? Les questions qu'on se pose, c'est bon, c'est-tu la logique qui va déterminer ça? Est-ce que c'est une impulsion? Est-ce que c'est une réaction inconsciente? C'est-tu l'adrénaline dans mon sang qui me pousse? C'est-tu la dopamine que j'ai au cerveau parce que j'ai vraiment du fun? On va essayer de répondre à ça. La recherche qu'on a faite, on s'est basé sur plusieurs articles qui, eux, faisaient référence à des recherches en psychologie, des recherches à l'université, vraiment des articles dans des revues scientifiques, ainsi de suite. Fait que tout ce qui est là, on ne l'invente pas, là. C'est de la recherche qu'on a faite sur le sujet. Puis on a essayé de remarcher ça dans nos mots pour que ça soit compréhensible pour tout le monde. Dans les premières théories, là, au début, ce qui était mentionné, c'est que le fait de tricher ou de ne pas tricher était complètement gouverné par notre morale. Si j'étais une bonne personne, je ne trichais pas. Si j'étais une mauvaise personne, je trichais. Et plus loin encore, la théorie disait que dans ton stage de développement comme enfant, de l'enfant à l'adulte, tu passais par 6 stages de développement. Et plus tu grandissais, moins tu étais égoïste, meilleur que tu étais à jongler avec les problèmes reliés à la morale, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Donc, pour ces théories-là, plus on est avancé dans les stages, moins on a de chances de tricher parce qu'on est des meilleures personnes, on comprend mieux c'est quoi le bien et le mal. Pour eux, la triche est un résultat d'un manque de morale, d'une faiblesse de caractère ou d'un manque d'éducation. OK, là, moi, j'ai l'impression d'être en 1910, là, en 1880 à peu près, là, quand j'entends des trucs comme ça. Mais ça a commencé comme ça. Pour eux, c'était les gens qui n'avaient pas d'éducation, qui n'avaient pas de colonne vertébrale, puis qui étaient de basse morale, qui trichaient.
On sait tous que les politiciens, qui sont quand même des gens pas très instruits, sont des gens très, très honnêtes.
Un peu plus tard, les psychologues vont expliquer la triche de façon beaucoup plus froide et cartésienne. Les joueurs vont peser le pour et le contre de tricher. Donc, si je triche, ça va m'apporter ça ici, mais si je me fais prendre, par contre, qu'est-ce que ça va apporter? Puis après ça, il va agir en conséquence. Il va décider, ben, mon gain vaut le risque que je vais prendre si je triche. Puis après ça, cette hypothèse-là a été un peu ajustée pour mentionner que la décision de tricher ou non se joue dans le subconscient et que c'est le résultat de plein d'éléments situationnels. Et que la majorité du temps, le tricheur n'est même pas conscient de ces éléments-là. Fait qu'il va tricher parce qu'il se fait influencer par son environnement sans vraiment le savoir. Dans le même ordre d'idée, d'autres ont proposé une explication un peu plus large et plus émotive pour expliquer la triche. Le comportement est le résultat d'un raisonnement très subjectif, donc très personnel à soi, qui va inclure 3 grandes familles d'arguments. Le premier, c'est comment je vois le monde. Donc moi, Bruno Lavigueur, comment je vois le monde qui m'entoure. Après ça, c'est qu'est-ce que je pense des autres personnes autour de moi, puis qu'est-ce que je pense de moi-même. C'est quoi ma confiance en moi, c'est quoi comment je me sens moi dans tout ça. Puis un peu plus tard, les analyses plus modernes ont démontré que la majorité des gens vont tricher. Donc, on peut considérer que tout le monde triche à peu près tout le temps, à petite échelle et grande échelle. Puis là, je parle de la vie en général. Hein. Tout le monde roule plus vite que la vitesse, tout le monde fait des stops américains, tout le monde va faire des petits trucs à gauche, à droite là, pour s'avantager un peu.
Alors, si jamais il y a des Français qui nous écoutent, le stop américain, ça serait l'équivalent d'un céder le passage. Vous ralentissez, vous laissez les roues rouler, mais vous êtes très lent. Exact. Ça, c'est rigoureusement interdit au Québec.
Donc, tous les gens vont tricher quand on leur présente des éléments environnementaux ou comportementaux mineurs qui sont à peine perceptibles par le conscient, qui sont encore là très influencés par ce qui se passe, où est-ce qu'il se trouve, quand est-ce que ça se passe, puis ainsi de suite. Puis là, on rentre dans une liste très intéressante de plein d'éléments qui peuvent influencer puis qui vont se passer au niveau du subconscient. La première chose, puis moi j'étais assez surpris quand j'ai vu ça, c'est l'éclairage. L'éclairage va influencer les tricheurs. Il y a plus de triches ou de comportements, qu'on pourrait dire malhonnêtes si on veut, là, dans des environnements sombres que dans des places bien éclairées. Ça a l'air que la noirceur ou la pénombre, ou quand il fait pas super clair ou que c'est pas bien éclairé, ça permet de se sentir un peu plus anonyme, un peu plus détaché, puis ça nous autorise nous-mêmes à des comportements qu'on ferait pas normalement. Ça nous met dans un état d'esprit où est-ce que c'est correct de tricher. Après ça, on a l'ordre et le rangement. Il y a plus de triche qui est observée dans des environnements bordéliques. Les signes de déviance sociale, bon, déviance sociale, c'est grand, là, mais tu sais, un endroit où on va arriver, puis il y a des déchets au sol, des pancartes à moitié arrachées, c'est pas propre, il y a des graffitis sur les meubles. Quand je dis graffitis, c'est vraiment des tags de gangs de rue. Tu sais, c'est pas beau, c'est pas propre, ça sent pas bon, c'est le bordel. Ça aussi, ça nous, là, présentement, ça, quand t'arrives là, ça t'autorise toi-même à des comportements du même genre. Donc, la triche, parce que notre subconscient va interpréter ça en se disant, un, que c'est acceptable dans cet environnement-là, c'est déjà comme ça. Je peux le faire moi aussi. Vu que c'est déjà comme ça, c'est pas mon comportement à moi qui va avoir un impact. Donc, si on fait un lien avec X-Wing, j'arrive dans une place, c'est un peu crasseux, c'est pas un beau magasin, mettons, c'est un peu serré, il fait très très chaud, c'est un peu désagréable. Ben, t'as plus de chances d'être poussé à tricher un peu parce que tu te dis, ouais, t'interprètes l'environnement comme étant un lieu pas sérieux, tu sais, puis bon, ok, dans une place de même, tout le monde doit être tout croche, ben, c'est correct de tricher.
C'est un peu, quand on est enfant, la règle. Quand on joue contre quelqu'un qui triche, on a envie de tricher. D'ailleurs, quand on est enfant, je pense qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont sorti la célèbre phrase « Ouais, mais j'ai triché, mais lui aussi, il l'a fait.
Ouais. »
C'est un peu cette idée-là. C'est-à-dire, si vous êtes dans un environnement où vous sentez que de toute façon, c'est pas carré, bah, vous seriez plus enclin à tricher.
Tout à fait. Encore là, c'est une façon qu'on a de justifier ça. De se dire « Ok, c'est correct, je peux tricher, j'ai le droit. » Après ça, c'est le déterminisme. Le déterminisme, c'est vraiment de dire que je vais tricher parce que je suis exposé à des affirmations qui soulignent les choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle. Si je me fais dire toujours que je suis un tricheur parce que c'est dans mon éducation, je suis malhonnête parce que c'est dans mes gènes, toute ma famille sont en prison, donc c'est normal que je fasse ça, c'est quelque chose qui est hors de ma volonté. J'ai pas d'impact là-dessus parce que c'est fait par d'autres personnes puis c'est mes gènes, donc je peux pas changer mes gènes. Ben, dans ma tête à moi, je vais dire, ben c'est normal, je triche parce que je suis de même, c'est tout à fait correct. Fait que je triche parce que je suis pas capable de pas tricher, puis c'est pas à cause que c'est ma volonté propre à moi.
Je pense qu'ici le but, c'est de déculpabiliser.
Tout à fait.
Notamment dans X-Wing, on arrive des fois des personnes qui nous disent « Ah, de toute façon, moi, OD, je suis pas chanceux, ça va pas faire. » Donc à partir du moment où on part du principe que nos dés vont être injustes, etc., si on est tendance à vouloir tricher, on va être plus tendance à amener à tricher en disant de toute façon je vais faire des dés dégueulasses, ça va pas avoir de sens, je vais lancer 5 dés, ça va faire 4 blancs.
Exact.
Donc bah, je peux bien déplacer un petit peu cet astéroïde pour passer à côté, de toute façon ouais. Les dés vont pas être là.
Oui, parce que c'est pas de ma faute, je suis pas chanceux. C'est pas moi là, c'est extérieur à moi, c'est les dés qui sont pas chanceux. Ben j'ai le droit de tricher. Fait que tu t'autorises comme ça à te donner des petits avantages. Ça dépend aussi de la situation. On dit que la triche est habituellement situationnelle. Ça veut dire qu'une personne pourrait ne pas se sentir mal de faire une petite infraction qui va l'avantager un peu. Je vais un petit peu plus vite sur l'autoroute, machin, des petites affaires, c'est pas grave. Mais elle irait jamais jusqu'à faire de quoi de majeur, comme voler dans un magasin ou menacer de mort quelqu'un. Elle fait des petites choses là, qui l'avantagent, c'est discret à gauche, à droite, mais elle irait jamais jusqu'à faire de quoi de très très grave. Mais ça aussi, ça va dépendre de l'importance que cette personne-là va donner à l'activité et à l'impact que sa triche peut avoir sur le jeu. En fait, jusqu'à quel point ce tricheur va être capable de se justifier lui-même sa triche, jusqu'à quel point il va être capable de se dire que c'est correct.
En d'autres termes, suivant l'importance de la triche, le tricheur va essayer de la légitimer. Par exemple, je pense vraiment que c'est ce qui s'est produit pendant le mondial. Je vais encore résumer la situation, c'est que le joueur qui a triché avait un dernier vaisseau à déplacer à la suite du mouvement de son adversaire. Et malheureusement, avec son mouvement initial, avant qu'il le modifie, son dernier vaisseau allait bumper sur ses propres vaisseaux. Ce qui fait qu'il n'allait plus pas avoir d'action et que ça allait après le mettre dans le trouble. Sauf que pour ce tour-ci, il avait un besoin capital de son action. Donc je pense que dans sa tête, il s'est dit, c'est juste sur ce tour-là, c'est pas ça qui va jouer le match. Je vais le faire discrètement. Et puis je pense qu'il pensait pas, c'est l'équivalent de juste un petit peu plus rouler sur l'autoroute. Sauf qu'en fait, il s'est avéré que l'erreur qu'il a essayé de rattraper en trichant, ça a quand même complètement joué sur le match. Ce tour a été assez décisif et puis il a gagné le match à la fin.
Oui, puis cette personne-là a probablement déployé beaucoup d'efforts pour se rendre au mondial. T'sais, il a dû se pratiquer. Oui. Peut-être, on ne connaît pas la personne, mais mettons, on prend un cas de figure. Ce gars-là, il s'est dit « Ok, c'est mon opportunité de faire un gros championnat. Je veux bien performer parce qu'habituellement, je suis bon dans mes store championships. Puis je veux vraiment performer. Puis je me sens entraîné. Puis après ça, je sais que je ne pourrais pas jouer pendant 3 mois pour X raisons. Ben, » rendu
là, il a peut-être fait 800, 1000, 2000 kilomètres pour venir faire ce tournoi.
Ça a peut-être coûté 1000$ sa fin de semaine. Tu sais, puis il avait économisé. Fait que pour lui, c'est encore plus important. Donc, c'est encore plus grave. Tu sais, la situation que lui est à ce moment-là, t'as la situation ponctuelle dans la partie, ce tour-là, ce manœuvre-là, mais t'as aussi la situation globale, dit « Je suis au mondial, ça me coûte 1500$ mon week-end avec ma bouffe, mon hébergement, c'est pas vrai que je vais me faire sortir au premier tour. »
Surtout pas à cause d'une erreur que j'ai faite moi-même qui fait que mon vaisseau va bumper mon propre vaisseau.
Exact. Dans la même ordre d'idée, dans les articles, ça mentionne que les gens, généralement, commencent avec des petites infractions, des petits trucs de rien. Puis d'une infraction à l'autre, il se justifie la prochaine infraction, puis plus ça va, plus c'est gros. Puis ça devient comme un cercle vicieux un peu. Ensuite de ça, il y en a trois qui sont reliées les unes aux autres. Premièrement, avoir la perception d'être en position d'autorité ou d'être supérieur. Les personnes qui se perçoivent en position d'autorité ou supérieure, ils vont se créer un état d'esprit de perpétuelle compétition pour continuer leur propre autopromotion et garder leur perception de supériorité. Ça veut dire qu'ils finissent par penser que les règles s'appliquent plus à eux parce qu'ils sont tellement meilleurs, tellement au-dessus de ça. Leur réussite à eux va se mesurer en objectifs atteints, en vraiment en résultats concrets d'objectifs là, matriciels en chiffres, plutôt qu'en maîtrise du processus. Eux autres, le but, c'est pas d'être bon au jeu, c'est de gagner.
Donc là, sur ce coup-là, c'est pas forcément évident de trouver un exemple concret pour X-Wing. Le seul à peu près qui pourrait se rapprocher, c'est on pourrait parler du cas où tu auras une personne chevronnée qui apprend le jeu à une nouvelle personne. Et imagine que malheureusement, pour l'orgueil en tout cas du joueur chevronné, le débutant se retrouve super performant, voire pire, au niveau de l'orgueil, c'est avoir une chance insolente au dé. Donc le joueur chevronné, s'il est mal intentionné, s'il est dans cet état d'esprit-là, il pourrait dire « Ok, je vais pas donner toutes les règles au nouveau joueur, ou je vais même peut-être même les modifier afin de m'avantager sur ce match parce qu'il faut absolument que je le batte. »
Oui, parce que je suis supérieur.
Par exemple, on pourrait se retrouver par « Je suis le joueur chevronné. » Ah mais si, j'ai le droit de faire une action après avoir traversé Astoride, et puis du coup tu torpilles le vaisseau adverse. Quoi.
Puis ça nous amène au prochain qui est la mentalité de gagner à tout prix. Tu sais, on connaît tous les win at all cost là, qui vont faire n'importe quoi pour gagner. Ça veut dire que si t'es un joueur hyper compétitif, c'est très improbable là, que tu vas accepter le risque qui vient avec le fait de tricher. T'es hyper compétitif, si je triche, il va arriver ça, toi tu vois pas ça. Par contre, c'est une partie de ton identité à toi là. C'est d'atteindre les victoires. C'est ça que tu veux, la victoire. Si t'as pas de victoire, ça existe pas. Mais dans ce cas-là, c'est beaucoup plus probable que tu vas tricher. Plus que la moyenne des gens. Donc, ça veut dire que si tu penses que t'es meilleur que les autres joueurs, mais que la partie va pas dans ce sens-là, tu sais, ça va exactement à ce que tu disais, tu vas être beaucoup plus susceptible de tricher pour maintenir ton identité personnelle de meilleur, hein, de supérieur, mais aussi de gagnant, parce que toi, tu mesures ça en victoire. Fait que si une personne perçoit le jeu ou la partie du jeu comme un défi ou une façon de démontrer qu'elle est supérieure, plus intelligente ou meilleure que les autres, tricher va juste être perçu comme une tactique, comme la tactique la plus intelligente pour gagner. Ça fait partie du jeu de tricher, ça me permet de gagner. Si je me fais pas prendre, j'ai gagné, j'ai été plus intelligent que toi parce que j'ai triché. Puis si t'avais été intelligent, tu m'aurais capté ou tu m'aurais démasqué, t'as pas été capable, je suis plus intelligent que toi, j'ai gagné.
Je pense que tout le monde a déjà joué contre quelqu'un qui prend le jeu vraiment, vraiment très à cœur. Mais j'aimerais quand même, à ce moment-là de l'émission, on est à 30 minutes à peu près, j'aimerais tout de même quand même émettre un petit attention, un petit warning, lever un petit flag. C'est clair que tous les joueurs compétitifs, en tout cas qui font de la grosse compétition, jouent pour gagner. À ce niveau-là, les gens viennent pas juste pour faire de la figuration. Mais ça ne veut pas forcément dire que tous les joueurs compétitifs vont se permettre de tricher.
Ah non, non, c'est important.
Je voudrais juste quand même qu'on évite, que l'on pense que on n'est pas ici, on ne met pas tout le monde dans
le
même sac.
Non.
On parle pour comprendre le phénomène.
Tout à fait.
Mais pour vraiment comprendre le phénomène, on peut aller écouter les interviews de sportifs qui ont été pris la main dans le sac en train de se doper, par exemple. Et c'est assez étonnant parce que beaucoup ont cette phrase terrible qui disait « je devais gagner ». C'était vraiment une obligation que je gagne.
Tout à fait.
Alors, je pense qu'on n'en est pas encore là avec X-Wing, enfin, en tout cas, j'espère.
Non, mais en tout cas, on les connaît pas et on les a pas rencontrés.
C'est une façon de voir les choses, en tout cas, une manière de comprendre pourquoi est-ce qu'on pourrait t'amener à
tricher. C'est ça, exactement, parce que ces gens-là, pour eux, la défaite, ça n'existe pas. Tu sais, ces gens-là, là, deuxième position, c'est le premier perdant. Fait que ça marche pas. Mais après ça aussi, qu'est-ce qui va les motiver dans le même ordre d'idée, les tricheurs, c'est les prix. Les personnes qui se nourrissent d'objectifs mesurables, là, que disent, bon, cette année, j'ai 14 victoires de Star Championship, puis j'ai deux nationales, puis whatever, ils vont se nourrir de la réaction des autres. Fait que pour eux autres, le classement, c'est super important parce que les gens voient ça. De dire qu'ils ont les médailles ou les cartes Alternate Art des prix, c'est important. D'avoir les félicitations des autres personnes, c'est important parce que ça permet d'impressionner la communauté. Fait que ces personnes-là sont plus susceptibles de tricher. Contrairement aux personnes qui vont se mesurer à eux-mêmes, qui se disent « Ah, ben moi, l'année passée, j'ai fait 3 victoires, cette année, j'ai fait 4. Boum, bravo, je suis content, j'ai atteint mes objectifs. » Fait que ces gens-là, eux, sont moins portés à tricher. Ils sont moins susceptibles, en tout cas. Ça veut pas dire qu'ils vont pas tricher, mais ça veut juste dire que c'est pas ça qui va faire qu'ils vont tricher. Parce qu'eux autres, leur sens de l'accomplissement vient de l'atteinte de leurs propres objectifs personnels à eux. Ils se comparent à eux-mêmes. Donc, prendre un raccourci pour ces gens-là deviendrait comme diminuer l'accomplissement. Si moi, l'année passée, j'ai gagné 3 fois dans mon tournoi, puis là, cette année, je gagne 4 fois, mais ma 4e victoire, je l'ai triché à fond, ben qu'est-ce que ça me donne? C'est pas une vraie victoire, fait que je me compare pas vraiment, je me mens à moi-même, donc je suis pas porté à tricher.
Bon, moi, personnellement, je suis prêt à tout pour une alternative art. Hein. Non, bon, et plus sérieusement, ici, on parle du prestige de gagner. Mais c'est marrant parce que j'ai discuté avec beaucoup de gens lors des tournois et c'est assez amusant parce que il y a beaucoup de gens qui comprennent pas l'intérêt des alternatives art, puisque finalement ça rajoute rien au jeu, c'est juste le plaisir d'avoir une carte différente. Ou alors le trophée, c'est le même principe pour le trophée. Mais c'est vrai que pour certains joueurs, moi je sais que j'ai un vrai plaisir à avoir gagné une alternative art. J'ai un vrai plaisir à avoir ces cartes un petit peu différentes dans le paquet. Mais ça ne veut pas pour autant dire que je suis prêt à aller
Ouais.
jusqu'à
Ça veut dire que pour
tricher pour ça.
toi, le gain que tu as de plaisir ou de jouissance personnelle à avoir la carte Alternate Art vaut pas la conséquence de te faire prendre à tricher.
Oui, voilà, puis c'est ma moralité. Après, je crois qu'on en parle un peu plus loin. Mais...
Ouais.
Et moi, personnellement, gagner une alternative art parce que j'ai triché, ça veut dire qu'à chaque fois que je vais regarder cette carte, je vais avoir le souvenir d'avoir triché.
Ben, t'es exactement ce qu'on disait tantôt, là.
J'ai pas gagné cette carte de manière légale.
Exact.
Et elle sera toujours là. Donc finalement, le seul truc qui va me rester à faire pour que je puisse vivre à peu près correctement, c'est d'échanger cette carte contre une autre.
Ben c'est ça, parce que ça va avoir diminué ton accomplissement personnel.
C'est ça.
Voilà. Donc ça va juste te rappeler que tu as triché finalement.
C'est ça.
Un peu au sens inverse, la perception d'être inférieur va avoir une grosse influence. Aussi étrange que ça peut se paraître, là, les tricheurs sont les premiers à justifier leur comportement comme étant une affaire d'égalité ou d'équilibre. Leur logique à eux autres, ça va être de. Qu'ils ont, en partant, ils pensent qu'ils sont en désavantage, okay, qu'ils ont un déficit naturel, puis qu'en trichant. Oubliez pas, hein, tout ça, ça se passe au niveau de l'inconscient, là. C'est pas toutes des décisions conscientes, là. Ça se passe en arrière, là. Ça va trop vite pour qu'on puisse réagir, ça sort tout seul, ces choses-là, là. Ils vont être les premiers à justifier qu'ils ont triché pour un peu mettre une sorte de parité ou d'égalité, d'égaliser les chances. Dans les cas extrêmes, ils vont même aller jusqu'à adopter des comportements extrêmes, comme changer sa roulette d'une manœuvre alors que tu sais que tu es filmé sur une diffusion en direct. Puis dans des cas plus simples, ça va aller, tu sais, de contredire ton adversaire sur son arc. Tu vas tirer ça super fort pour dire ah non, t'es pas dans l'arc de tir, t'es pas dans l'arc de tir, blablabla. Puis tu sais, appeler l'arbitre, puis faire des simagrées alors que tu sais très bien qu'il est dans l'arc de tir. En plus de ça, si on pense que l'adversaire triche, on va être encore plus en train de tricher parce qu'on veut égaliser les chances. Fait qu'on se dit, ben là, je pars avec un désavantage, donc je vais tricher un peu pour m'aider. Ben le tabarouette, l'autre bord, il triche lui avec. Ben c'est clair que je vais tricher moi aussi. Donc, on tombe dans la mentalité que si tout le monde le fait, ben pour être égal, je vais le faire moi avec. Pour pas être défavorisé, je vais le faire.
Tu parlais de dire que l'adversaire est triche ou est meilleur parce qu'on se sent inférieur par rapport à l'adversaire, mais ça peut être aussi tout simplement parce qu'on se dit, ouais, mon adversaire, il a quand même une chance insolente au dé. Ah bah, moi, mes dés sont absolument affreux ce soir. Bon, bah, je vais essayer de rétablir l'équilibre dans la force et puis bah, je vais tomber du côté obscur de la force en faisant de la triche.
Ouais, mais c'est important de comprendre que c'est inconscient,
En tout
ça.
cas, il y a une grosse partie qui se décide
La plupart du temps, du moins.
trop rapidement pour que tout soit analysé aussi froidement que nous, on le fait ce soir.
Ensuite de ça, il y a la fatigue. Puis ça c'est intéressant dans X-Wing, hein, parce que quand tu fais un régional à 6 rondes, ou même quand tu fais un tournoi en Outaouais avec 4 rondes, puis tu as conduit 2h30 avant, puis tu es arrivé 1 heure trop tôt, là, parce que.
Coucou l'Outaouais.
Coucou l'Outaouais. Parce qu'on va tricher quand on est fatigué. En tout cas, on va être plus susceptible parce que. Généralement, on triche pas spontanément quand on est fatigué, mais on risque de saisir plus facilement les opportunités de triche qui vont se présenter à nous, là. L'opportunité de tourner un coin rond quand tu es fatigué, là, ouah, c'est plus facile. La fatigue va diminuer notre volonté, notre jugement. Je vais plus facilement tomber dans le, ben, Colin Debin, si je peux le faire, il regarde pas, ça va m'aider, pif, paf. OK, go. Je vais chercher les raccourcis. Quand on est fatigué mentalement, on est plus susceptible de faire ce qui nous tente. Parce que dans notre vie, là, il y a tout le temps une tension entre ce qu'on veut faire et ce qu'on doit faire, constamment, là. Puis ça tire du jus. Fait que la personne pourrait se dire qu'elle aimerait gagner avec un peu moins d'effort, inconsciemment. Donc, si cette personne est tentée par un petit raccourci puis qu'elle est plus fatiguée mentalement, il y a des grosses, grosses chances qu'elle va prendre son raccourci puis qu'elle va tricher.
À noter aussi qu'en plus, en général, si la fatigue arrive à la fin du tournoi, l'adversaire l'est aussi. Donc tu as l'idée de te dire, je triche, puis en plus ça peut passer plus facilement parce que l'autre est fatigué aussi.
Tout à fait. Il y a des chances qu'il ne me voit pas, puis on retombe encore dans ben, tout le monde le fait. L'autre bord va tricher aussi, moi aussi.
C'est de toute façon, là on donne plusieurs points, mais c'est jamais un seul des points qui fait qu'on a triché.
Après ça, il y a la vision à court terme. Okay? Typiquement, les tricheurs, ils ne se sentent pas concernés par qu'est-ce qui va se passer à long terme. Parce que s'ils l'étaient, ils seraient tout le temps découragés par l'humiliation potentielle de se faire prendre. C'est clair que le gars qui s'est fait prendre au mondial, là. Il a vécu des moments difficiles, là, parce que si tu écoutes les autres podcasts en anglais, tout ça, ils en ont parlé, puis il y a des gens qui ont appelé sa mère, des gens qui ont appelé à son travail, il s'est fait barrer à gauche, à droite, il a dû se faire insulter verbalement. Fait que s'il avait pesé la conséquence de son geste, il l'aurait jamais fait. Fait que c'est plutôt le gain à court terme qui va les aveugler. C'est comme rouler au-dessus de la vitesse, permis sur l'autoroute en se disant « bon, je me ferai pas prendre ». Puis là, t'es surpris parce que le policier t'arrête. Ben, non, non, il fallait que tu y penses. Là, tu roules plus vite la vitesse, t'as probablement tranquillement pas vite augmenté. Boum, tu te fais arrêter. Ben, c'était prévisible, là. Et il fallait que tu y penses. Comme je disais tantôt, ça commence avec des petits gestes simples. Puis sans qu'on s'en rende compte, ça va cascader à des comportements beaucoup plus problématiques. Fait que je commence à juste mal jouer mes templates, bouger mes astéroïdes avec mes mains, puis tranquillement, pas vite, j'évolue jusqu'à je change ma roulette devant une diffusion en direct. Fait que certaines personnes vont commencer par faire un petit pas, puis un autre, puis finalement, ils vont arriver face au mur, puis se faire prendre en direct dans un mondial.
Absolument. T'as un peu piqué mon exemple, qui était l'exemple du mondial, qui effectivement, je pense que si la personne avait été totalement consciente de ce qui se passait, d'ailleurs, il a fait ça devant une caméra, quoi, je veux dire, c'est à peu près improbable de faire ça devant une caméra, c'est beaucoup trop greedy, on va dire. Il n'était pas conscient, je pense que c'est vraiment été un coup sur l'instinct.
Tout à fait. Là, il a juste vu le gain là, de ne pas faire de collision avec son vaisseau. Il n'a jamais pensé qu'il pouvait se faire prendre. Après ça, pis ça, je pense que c'est une des pires affaires. L'affaire la plus insidieuse, c'est que la triche peut devenir son propre renforcement. Quand on triche, on a une tendance à rationaliser le comportement. Ça veut dire qu'on trouve une raison de le justifier. Ben, j'ai fait ça parce que ça, puis c'est correct. Parce qu'on ne peut pas changer le passé, on peut changer notre attitude pour justifier nos actions. Hein? Fait que j'ai triché avant, je ne peux pas changer ça, donc je vais rendre ça acceptable maintenant. Cet ajustement-là va nous permettre de nous sentir mieux avec nous-mêmes, mais va aussi nous rendre susceptibles à récidiver, parce que je l'ai accepté le coup d'avant, il n'y a pas de raison que je ne l'accepte pas le coup d'après. Donc, le cycle, là, ça va être je vais tricher, je vais le rationaliser, je vais l'accepter, m'en retricher, m'en le rationaliser, m'en l'accepter encore, puis là, la roue elle tourne. Puis plus la roue tourne, plus la roue devient grande, puis plus ça va, plus je me dirige vers des comportements de plus en plus graves, d'un point de vue de la triche.
Donc, une véritable roue de Deming.
Tout à fait, c'est un plan do check act, c'est pareil. Donc la triche peut causer une auto-justification qui va bloquer temporairement les informations éthiques ou morales. Donc je vais oublier que je suis une bonne personne, là, parce que ça marche.
C'est un peu le principe de s'habituer aux bonnes ou aux mauvaises choses, en fait. C'est le principe de... Bah, je l'ai déjà fait, et en plus, si jamais on l'a déjà fait et qu'il ne s'est rien passé de grave, voire qu'on n'a pas été pris, c'est on vit avec non seulement avec le fait qu'on l'a déjà fait, mais on le vit avec le gain qu'on a fait, mais aussi avec le fait qu'il n'y a pas eu de conséquences avant. Bah oui, mais je l'ai déjà fait, il ne s'est rien passé de grave.
Exact.
Alors je recommence.
Renforcement positif. Mais c'est grave, parce que plus ça va, plus que c'est correct. Tu t'en rends même pas compte, puis t'es rendu un tricheur. À toutes tes parties, tu vas tricher. Puis à force de tricher, ben tu gagnes. Puis à force de gagner, tu te dis que t'es bon. Puis là, à un moment donné, tu viens, ben là, je peux pas perdre parce que je suis bon.
C'est le cercle vicieux que tu as aussi dans le dopage, finalement.
Le prochain élément, là, puis ça, c'est quelque chose qui est assez présent à notre époque, c'est les médias sociaux. Les médias sociaux sont une autre forme ou une autre façon de nous mettre de la pression pour qu'on performe, même dans un contexte récréatif. Ça veut dire qu'il y a des grosses chances que je vais afficher un commentaire après un tournoi ou je vais mettre une belle image de moi avec le trophée. Ou, si c'est pas arrivé, ben je vais mettre un affichage où je vais dire hey, « j'ai participé à tel tournoi, je suis arrivé deuxième, blablabla. » Mais dans ma tête à moi, je vais fantasmer à mettre la photo à côté de cet affichage-là qui me montre moi avec le trophée. Ça veut dire que même si je veux absolument poster quelque chose sur mon fil, parce que c'est important pour moi de bien paraître sur les médias sociaux, l'idée de même pas terminer le tournoi parce que j'abandonne, parce que écoute, je suis rendu à 4 défaites, ça n'existe pas, c'est pas une option. Diffuser nos succès rend le bénéfice psychologique de la victoire encore plus désirable. Donc, tous mes win at all costs, tous ceux-là qui se sentent supérieurs, c'est clair qu'ils vont afficher ça, là. Fait que la comparaison sur les médias sociaux va apporter une pression constante sur ce qui rend ces personnes-là susceptibles de tricher. Donc, ça va alimenter encore plus le bobo qui va causer la triche.
Ah, ça veut pas dire qu'il faut que vous arrêtiez tous de poster vos photos quand vous gagnez un tournoi, absolument pas.
C'est juste un élément qui peut t'influencer.
Je pense vraiment que par chance, la communauté X-Wing n'est pas encore assez importante pour que gagner un tournoi, ça soit si prestigieux que ça.
Ben écoute, Julien, là on fait une parenthèse, mais au Québec, puis peut-être en France, c'est effectivement, tu sais, c'est une petite communauté, tout le monde connaît pas mal tout le monde. On se croise à pas mal tous les tournois. Mais si tu vas aux États-Unis, là, quand tu écoutes les autres podcasts, tu les écoutes parler, ces gars-là. Là. C'est eux autres qui ont inventé tous les archétypes là, de listes, là, c'est eux autres qui les ont inventés. C'est clair que le gars qui se prétend l'inventeur du Dengaroo, là, il veut pas se faire battre, puis il pose partout que c'est lui l'inventeur du Dengaroo.
Oui, oui, ouais, non, mais ouais. Si t'écoutes les gens qui parlent fort, c'est toujours eux qui ont tout fait.
C'est vrai. Mais pourtant, je parle fort, puis j'ai pas fait grand-chose. Je vais l'enlever au montage. OK. Puis le dernier, puis il est super important aussi. Ça touche un peu à tantôt quand on parlait de l'environnement, où ce que quand tu arrives dans une place où ce que c'est sombre, c'est sale, où ce que tu sens que la triche est permise à cause de l'environnement social, ben il y a la norme sociale. Si les comportements de triche semblent acceptés, les tricheurs ont plus tendance à être malhonnêtes. Ça veut dire que si tu vas dans un tournoi, ton adversaire fait de quoi de bizarre, t'appelles l'arbitre, l'arbitre y arrive puis il dit non, c'est bien correct, c'est même ça marche, puis il fait un clin d'œil à son chum. Ben là, tu te dis, OK, c'est correct, ici, c'est de même, ça marche. Donc, moi, qui est un peu tricheur à la base, c'est clair que je me lance, j'ouvre les valves, là. Tu sais, je mets la totale, là. Donc, si je vois mon adversaire réussir quelque chose que tout le monde sait que c'est impossible à faire de façon légale, qui se fait pas prendre, puis je le sais que c'est illégal, ben, c'est clair que pour moi, ça vient de confirmer que les comportements illégaux ou que la triche est socialement acceptable dans cet environnement-là. Donc, je viens d'avoir ma permission, moi aussi, de tricher.
Il faudrait qu'on teste cette théorie. Donc, je propose qu'on organise un tournoi X-Wing avec triche autorisée.
Ah, ça serait drôle.
Bah, juste pour la déconnade, hein. Juste pour voir ce que ça va donner. Tu sais, où tout le monde, on tricherait comme des malfrats.
Oui, parce que tout le monde sait qu'un malfrat, c'est vraiment... c'est viril. Puis j'ai toujours rêvé d'être un malfrat.
Je pense très honnêtement que le tournoi n'aurait ni queue ni tête à la fin. Mais honnêtement, ça pourrait être assez le fun.
Mais OK, je reviens à ça. Mais encore là, attention, parce que la personne qui capte la triche de son adversaire, qui capte que l'arbitre a dit que c'était correct puis a fait un clin d'œil à son adversaire, moi, je vais me permettre de tricher seulement si je m'identifie à ce groupe-là. Donc, si je suis un outsider dans ce groupe-là, ben je vais pas me permettre de tricher. Ou si la personne qui a triché est un peu quelqu'un de bizarre, quelqu'un de différent, quelqu'un qui fait pas partie de ta communauté locale, tu vas pas t'identifier à ce gars-là, fait que tu voudras peut-être pas faire la même chose, tu sais, t'essayeras pas. Heureusement, c'est vrai aussi pour prévenir la triche. Il y a plein de petits ajustements dans l'environnement qui semblent non reliés à l'honnêteté qui peuvent déclencher des autoréflexions chez les joueurs. Exemple, si le joueur se sent observé, à la base, il va avoir moins tendance à tricher. Puis ça peut être nono, hein? Même des petits signes de rien de surveillance, des petits signes de surveillance vont avoir un impact. Selon les études et les articles qu'on a lus, tu mets des miroirs, mais même des images de regard. Un visage avec des yeux qui regardent, ça va être dissuasif pour les tricheurs parce qu'inconsciemment, ils vont se sentir observés. Si au début, tu mets en place un code d'honneur informel, tu sais, s'il y a des énoncés de la triche, ça ne sera pas toléré, machin, ça va dissuader un petit peu les tricheurs. La présence d'avertissement, soit ça soit des affiches, soit ça soit l'organisateur du tournoi qui commence en disant « Nous autres, la triche, c'est interdit, si je vous prends, pif, paf, pouf », déjà là, ça va dissuader les gens. Ça veut dire qu'il y a moins de faire de la prévention. Fait que si on revient au début, là, que les premières théories qui mentionnaient que la triche, c'était juste une question de morale, de stage de développement, d'éducation ou même de force de caractère, il n'était pas si simpliste que ça, dans le fond, parce que d'autres études après ont mentionné que peu importe les circonstances, l'état de fatigue, l'environnement, la norme sociale, certaines personnes ne vont jamais tricher. Ces études-là ont démontré que les personnes qui estiment fortement l'honnêteté là, comme valeur, l'honnêteté, l'égalité, la compassion, vont rester immunisées aux tentations de la triche. Puis ça veut dire que tous les paladins là, niveau 20, là, ils vont jamais tricher eux autres.
Ou les maîtres Jedi, pour rester dans le thème.
Les maîtres Jedi. Un maître Jedi, dans le fond, c'est un paladin. Hein, tu sais, ça ment pas, ça triche pas, ça l'aide l'enfant orphelin puis la veuve, tout le temps, tout le temps. Et ça fait exploser des squelettes avec des vadérétro. Parfait. Bon, fait que moi, personnellement, je crois en ça, moi, que les valeurs d'une personne vont beaucoup influencer le comportement, là. Mais c'est sûr que tous les autres éléments vont jouer, mais au fond de toi, je pense que tes valeurs vont avoir une grosse, grosse influence.
Là, on rentre, en fait, dans la frontière entre le bien et le mal. C'est sûr qu'il y a des valeurs propres à l'éducation, mais il y a aussi l'environnement qui rentre en jeu. Ça touche pas forcément seulement la triche. Il y a aussi un peu les normes sociales. Si on veut un exemple concret, par exemple, moi, je déteste marchander. C'est quelque chose, je suis très mauvais, c'est quelque chose que je maîtrise pas. Mais pourtant, dans les pays du Maghreb, c'est une norme le marchandage. Tu dois négocier avec le vendeur le prix, c'est quelque chose qui doit être fait. Est-ce que pour autant, il y a un statut qui est mieux que l'autre? Je pense pas. C'est juste vraiment une question du pays dans lequel on est, avec les normes sociales. Mais là, en fait, je pense qu'on s'éloigne un petit peu du sujet du X-Wing, et donc je propose qu'on revienne sur un truc un peu plus standard qui est comment est-ce qu'on se protège de la triche?
Bon, mais Julien, avant qu'on passe aux façons de se défendre, je te propose qu'on regarde c'est quoi les comportements de triche à X-Wing. En fait, c'est la section hein, que les gens y attendent depuis tantôt. Là. Comment je peux tricher à X-Wing?
Vas-y, donne les astuces à tout le monde. Messieurs, dames, prenez des notes.
Oui, prenez des notes. Mais comme j'ai dit au début, le but, là, c'est pas de donner des trucs aux tricheurs parce qu'ils connaissent déjà tous ces trucs-là. Le but, c'est de dire ceux-là qui trichent pas, voici comment votre adversaire va tricher et préparez-vous. Mais encore une fois, c'est une liste non exhaustive parce que des façons de tricher, là, c'est à l'infini, là, hein, que faut juste être à l'affût. Donc, première chose que j'ai identifiée, moi, c'était les manipulations des pièces de jeu. Accrocher volontairement un vaisseau pour changer la distance ou l'arc de tir. On va voir ça souvent, les gens vont soit avec le template, avec le main, hop, il a accroché le vaisseau, il a bougé, ben, je vais le replacer à peu près. Ben, c'est drôle, maintenant, je suis plus dans ton arc. Je suis dans ton arc, je l'étais pas tantôt, puis là, hop, c'est drôle, là, t'accroches plus l'astéroïde. Accrocher un astéroïde aussi, pour l'enlever du chemin, ça veut dire que je mets mes mains, mon avant-bras sur le terrain de jeu pour placer mes choses. Ah, c'est drôle, je l'avais mis sur l'astéroïde, il est resté collé en dessous de mon avant-bras. Ben, je vais le remettre à peu près. Deux tours plus tard, c'est drôle, tu passes pas dedans. Poser sa main sur un astéroïde en bougeant une pièce pour le déplacer, ça revient un peu à la même affaire. Ne pas placer le vaisseau correctement dans le gabarit pour s'assurer un arc ou une distance. Ça veut dire que je place mon gabarit, mais mon vaisseau, il est pas à côté au fond. Là. Il est un petit peu en angle, puis je sais très bien que ça va me permettre d'attaquer ou qu'au prochain tour, je vais pouvoir éviter un astéroïde. Ça, c'est un spécial. Reculer le gabarit en plaçant le vaisseau pour s'assurer de ne pas faire un bond pour éviter un obstacle. Ça veut dire je dépose mon gabarit, je mets mes mains, je place mon vaisseau, puis je dépose le devant du vaisseau en premier pour venir après ça à côté le derrière du vaisseau contre le gabarit. Mais en même temps que je descends mon vaisseau, je recule mon gabarit, puis après ça, je viens à côté mon vaisseau contre le gabarit. Ah, ben je bombe pas finalement. Ah, ben je prends pas l'astéroïde. C'est le fun. Après ça, ben évidemment, pour aider tout ça, je place mes mains de façon à cacher mon gabarit puis mon vaisseau pour pas que mon adversaire il le voit. Fait que je manipule tous mes trucs avec mes mains complètement devant. Ça m'aide pas, là. C'est difficile. Je me casse les poignets, place les choses. Fait que mon adversaire voit pas du tout ce que je fais, voit plus l'astéroïde, voit plus la base de mon vaisseau. Puis quand il enlève ses mains, tout est beau. Il est à bonne place. Range 1. Ben évidemment, changer la manœuvre de sa roulette après le début du tour. Ben il y a un exemple au mondial. Allez voir la petite vidéo, c'est assez clair. Jouer avec sa roulette qui est lousse, puis elle est constamment en deux manœuvres. Donc ma petite roulette est lousse. Je la dépose en deux manœuvres, puis quand vient le temps de jouer, ah, c'est pas ça que je voulais faire, puis là, il y a tasse. Ouais, faites attention à ça.
En théorie, pour celle-là, il y a une règle.
Il y a une règle, mais.
T'es obligé normalement de faire la manœuvre qui est indiquée, même si c'est pas celle que tu voulais.
C'est entre les deux.
Et si jamais il y a ambiguïté, c'est ton adversaire qui choisit celle que tu fais.
Ouais. Mais ça,
il faudrait vérifier avec une dernière des FAQ si c'est pas un 2 blanc tout droit.
Ok. Ben,
je sais plus.
Mais tu vas l'aborder tantôt, ça, sur comment je confronte mon adversaire face à ça. Le premier coup, tu vas dire, ah, c'est correct, écoute, ouais, c'est une erreur, c'est pas la fin du monde, tu sais. Mettons, moi, je joue contre toi, Julien, puis je le sais, là, t'as de l'air d'un nouveau, t'as de l'air un peu insécure, t'es super nerveux. Moi, c'est mon 38e tournoi, je connais ma liste par cœur, je connais tous les règlements, toutes les failles, puis je fais 12 pouces de plus que toi, là. Puis là, je mets ma manœuvre entre les deux, puis je lève ma roulette, puis là, je te regarde dans les yeux, là. Ben, c'est clair que toi, personne insécure, machin, tu vas te mettre à trembler puis tu diras pas un mot, là, tu sais. Il y a du mind game en arrière de ça aussi. On l'aborde pas dans cet épisode-là. En tout cas, on pourrait faire 2 heures sur les jeux de l'esprit aussi, là, ou la manipulation mentale. Mais ça va là-dedans. Écoute, ça peut facilement rentrer dans cette catégorie-là. Après ça, on a identifié aussi tout ce qui est les manipulations des dés. Relancer rapidement un dé après qu'il est sorti de la zone de jeu. Puis ça, Julien, tu sais, ça nous arrive à nous deux.
Ouais, on en parlera tout à l'heure.
Ouais, on lance les dés. Il y en a un qui tombe en dehors du tapis, la personne, elle le reprend, puis c'est un blank, évidemment, la personne le reprend tout de suite, puis elle le lance. Oh, là, elle a un evade, whatever. Le coup d'après, même affaire, le dé tombe à côté, mais là, c'est un touché ou un critique, puis ben là, elle l'utilise. Bon, c'est quoi les règles de table, là? Je le relance-tu ou je le relance pas? Encore là, c'est du mind game un petit peu, puis ben non, c'est correct. Après ça, enlever rapidement un dé après qui a été lancé, puis affirmer que c'est un résultat. Tu lances tes dés, tu laisses pas le temps à l'autre personne de voir, t'es ramasse, touché, critique. Je l'ai pas vu, t'es sûr que c'était ça? Après ça, lancer les dés contre les vaisseaux pour les faire changer de distance ou changer d'angle. Je suis sûr que tout le monde a expérimenté ça, du monde qui lance le dé là, comme si c'était des feux d'artifice. Là, c'est bien juste s'ils frappent pas les néons au plafond avant de retomber à terre. Ça revole tout partout, ça revole d'un vaisseau, ça bouge les astéroïdes, ça fait tomber des vaisseaux. Ben ça, c'est une tactique. Lancer les dés un peu partout, même jusqu'au plancher, du côté de l'adversaire pour pouvoir changer le résultat pendant qu'il regarde pas. Je lance mes dés, je m'assure qu'il y en a un qui est tout de l'autre bord pendant qu'il se penche pour ramasser. Oups, oh, j'ai un touché. Après ça, lancer les dés ou changer les résultats pendant que l'adversaire est occupé ou distrait, ça, je suis convaincu que ça m'est arrivé une couple de fois. Là, je pourrais vous dire des moments très très précis. À cause que je m'occupe de la ligue, hein, puis j'accueille le monde tout le temps. Ça arrive souvent que je me tourne, que je m'occupe pas de ce qui se passe sur le tapis de jeu. Je reviens. Ah, touché, touché, critique. Eh ben, t'es chanceux, toi. Comportement, dans la catégorie des comportements, mesurer des distances ou des arcs de tir en dehors des phases. Mais c'est clair, t'as pas le droit de faire ça. Puis il y a des gens qui vont te le faire pareil pour X raisons. T'sais. Ah, je savais pas que je pouvais pas. Mon œil fait 4 ans que tu joues. Jouer très vite. Ou sauter des. Tu sais, jouer très vite pour sauter des phases. Ou forcer son adversaire à manquer ses déclencheurs. C'est sûr que si quelqu'un a des habiletés qui embarquent en plein. Quand on dit, bon, début de la phase de combat, il arrive ça, ça, ça. Puis toi, t'arrives, OK, on a bougé. OK, j'attaque, tu lances tes dés. Boum. Ben, c'est parce qu'attends, moi, j'avais Canan, puis je voulais t'enlever un dé d'attaque. Ah, oh, ben là, mes dés sont lancés. Ça joue trop vite, là. Tu forces ton adversaire à le stresser, à le forcer à manquer des affaires. Pas enlever tes boucliers après avoir reçu des dégâts. Tu places tes boucliers en pile sur ta carte. Mettons que tu as un gros vaisseau, puis il y en a 6. Ils sont tous en pile. Puis là, tu prends 2 dégâts. Ben, ça paraît pas bien ben que j'en enlève un ou deux. On voit pas beaucoup la différence. Pas attribuer tous les dommages à un vaisseau. Je reçois 4 hits. Ben, j'en ai donné juste 3. J'ai mis en place. J'ai place en pile bien carré. Ça paraît pas. Il y a une petite pile de dégâts sur mon vaisseau. Ça paraît pas qu'il y en a juste 3 ou 4. Mal interpréter un règlement volontairement pour avoir un avantage. Ben, on en a parlé un petit peu tantôt. Déplacer les dégâts et les boucliers d'un vaisseau à l'autre. J'ai mes cartes devant moi. Pendant qu'ils ne regardent pas, ben, je remets un bouclier sur mon vaisseau. Qui en manquait juste 2, j'en remets un, je l'enlevais à l'autre parce que l'autre ne sera pas attaqué avant au moins 2 tours. Mais ben là, je disperse mes dégâts dans mes vaisseaux. Jouer la distance avec le laser. Mon laser, c'est sûr, hein, quand je regarde mon arc de tir, si je suis très très loin du tapis ou très haut, mon rayon laser très large, ben, j'ai plus de chances d'avoir quelqu'un dans l'arc. Ou très proche de l'arc, que si je suis très très proche, je descends mon laser proche de la zone, ben là mon laser, mon faisceau sur le tapis devient plus mince. J'ai plus de chances de passer, surtout quand c'est au millimètre. Fait que là, je joue avec mon laser, fait que, oh, là je suis dedans, oh non, là je suis plus dedans. Quand moi j'attaque, mon laser est très très large, mais quand toi t'attaques, la ligne est très très mince. Mentir sur des informations ouvertes, quelqu'un te demande l'information, hey ton vaisseau, il peut-tu faire un 2 rouge? Puis tu dis non. Tu dis, ok, c'est quoi tes verres? Pas de verre. tu vois le genre. Pas déplacer les jetons. Tu bouges ton vaisseau, tu fais ta manœuvre, tu bouges ton vaisseau. Tu fais un 3 bank, tu sais, fait que ça l'amène un peu plus loin. Puis, ah, oh, c'est drôle, tu transfères pas le stress, tu transfères pas le target lock qui est sur lui. Puis là, au tour d'après, tu rebouges. Puis là, ben, ah, c'était à qui ce target lock là? Voyons, il n'y avait pas un stress, ce vaisseau-là, tantôt. Non, je sais pas, il n'y a pas de stress. Non, je sais pas. Puis là, tu retrouves, il y a des stress partout sur la table, puis tu sais pas pourquoi, puis ton adversaire, il suit pas ses affaires, t'es obligé de bouger ses trucs pour lui, parce que sinon, ses vaisseaux sont jamais stressés, puis ils ont jamais de target lock. Après ça, pas mettre ses jetons à son vaisseau. T'attaques avec le droïde qui stresse, puis ton adversaire, il aimait pas. Tu dis, OK, je te déclare comme ma cible, je mets mon stress, tu lances tes dés, tu regardes pas trop. Le gars, il prend ses dégâts, il met jamais son stress, puis vite, 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 il passe à l'autre phase d'attaque. Fait que tu t'en rends pas compte, puis hop, il a pas mis son stress. Il n'a pas mis son jeton de critique, fait qu'il ignore l'effet d'un critique de tour en tour. Il y a un major explosion. Il y en a un, je ne sais plus c'est lequel, là, que tu reçois un dégât au début de chaque tour de combat. En fait, tu lances un dé.
Bah, tu lances un dé, alors ça c'est un grand classique de l'oublier celui-là. Tu lances un dé au début de chaque phase de combat.
Ben, je pense qu'il y a des champions de ne pas faire ce critique-là. Cacher ses jetons à son adversaire. Je pense que ça aussi, là. OK, j'ai mon vaisseau, c'est une grosse base, un Faucon Millennium, ça cache pas mal le tapis de jeu. Ben, je m'assure que moi-même, quand j'ai un target lock sur moi, je le mets à l'envers, je le mets en arrière pour que pas lui voit, mais c'est son jeton à lui, il y a des chances de le voir. Mais ses jetons à lui, hop, parce qu'on a bougé le vaisseau tantôt, je tasse son focus de façon à le cacher en dessous de son vaisseau, je tasse son evade de façon à le cacher en dessous de son vaisseau. Puis là, évidemment, tu joues super vite, fait qu'il n'y a plus le temps de penser, tu profites du fait que c'est un nouveau, tu profites, peu importe, il est nerveux, il y a du bruit autour, il est distrait. Puis il voit pas son evade, puis boum boum boum, 4 dégâts, ah ben c'est plate, hein, on est passé à l'autre phase de jeu, ah, t'aurais dû prendre ton focus. Ben ça c'est triché, je m'excuse. Jouer avec des gabarits non conformes, ça vous allez me dire c'est bizarre, là, t'as des gabarits, ils sont conformes ou ils sont pas. Si tu regardes, il y a certains gabarits qui ont été faits par FFG, d'autres gabarits qui ont été faits par des fournisseurs externes, d'autres gabarits en carton qui sont usés, pliés, tout ouverts. Si t'es mis à côté, souvent ils n'ont pas toute la même longueur, fait que ton range 3 des fois est un petit peu plus court ou plus long. Il n'y a rien qui empêche quelqu'un qui veut un win at all cost d'aller se faire faire un set de template custom puis dire « Hey, rajoute-moi donc 3 mm sur mon, ma règle de distance. Ça paraît pas. Tout le monde a des règles une à côté de l'autre, puis ils sont bien belles, puis on aime ça avoir des règles différentes. C'est drôle, lui, range 3, puis il me touche, puis tabarnouche, j'ai vraiment l'impression d'être à l'extérieur. Jouer avec des dés non officiels aussi. Jouer avec un paquet de cartes modifiées. C'est drôle, moi, j'ai enlevé 3 direct hits de mon paquet de cartes. Ça paraît pas. Puis quand on me dit de compter mon paquet de cartes, ben ouais, j'en ai 33, tout est beau. Ou j'ai pris 2 decks de dégâts, puis j'ai enlevé 3 direct hits, puis j'ai enlevé un blinded pilot, puis j'ai remplacé ça par des affaires insignifiantes. Fait que quand tu regardes vraiment 33 cartes, il n'y a juste pas les bonnes cartes. Garder son espace de jeu à nous autres en bordel. Exemple, j'ai mes cartes devant moi avec mes vaisseaux, puis c'est le bordel. Je ne sais plus quel bouclier va avec quel vaisseau. Je ne sais plus quel vaisseau a des dégâts. Les templates sont par-dessus. C'est pour faciliter la confusion. T'sais, mon adversaire, il regarde l'autre bord puis il essaie de dire qui j'attaque, qui est blessé là-dedans. Là? Fait que c'est facile pour le tricheur de dire bah, lui, il a tous ses points de vie. Blablabla, il dit n'importe quoi. Ça paraît pas, tu le sais pas. Dans le feu de l'action, d'un fois, tu perds le fil de la partie. Fait que pour moi, ça fait un peu une liste non exhaustive, mais assez importante de qu'est-ce qu'on peut observer comme triche. Julien, je sais pas si peut-être que tu aurais aimé ça, rajouter des trucs à ça.
Ouais, je crois que tu as déjà fait une belle grande liste. Il y a peut-être juste une. Alors, moi, je le considère comme une triche que nos amis communs a été victime. C'est j'enlève le token de la bombe avant de vérifier les ranges autour.
Ah, ouais.
Donc, vous avez posé un token bombe. Et de toute façon, je suis pas range 1. Et vous enlevez le token. Et là, bah, t'étais peut-être à range 1, mais on peut pas le vérifier parce que le token n'est plus là. Et là, t'as beau appeler l'arbitre ou machin, y a plus rien à faire.
Ah oui, mais dans l'autre sens aussi, toi, tu mets une bombe, puis tu dis « Ah, t'étais à range 1 », puis t'enlèves le token. Puis ton adversaire l'était pas, puis toi, t'as décidé d'enlever avant parce que t'as décidé qu'il était à range 1.
Là encore, je te dirais que ça a ton avantage. Il t'a enlevé le token, t'es à range 1, tu le prends. Bah non. Bah si, tu l'étais. Bah non, t'as aucune preuve. Je veux dire, t'appelles l'arbitre, bah moi j'y étais pas. Ouais. Et toi t'y étais. Ouais, oui, moi je dis qu'il était. Il était où le token?
Ouais, ouais, ok, tu peux te défendre.
Je te dirais que si lui il enlève son token, c'est dans ton avantage. Par contre, on a un ami commun qui s'est retrouvé dans la situation inverse où c'est l'adversaire qui a enlevé son token de bombe à lui. Et il y a de fortes suspicions qu'il était à range 1. Ok?
Ok, il est manqué celle-là, mais tout à fait, c'est un excellent exemple. Je te propose qu'on passe à l'autre,
oui, ben,
qui est de comment se protéger et comment détecter la triche.
Oui, ben là, on va faire quelques listes. Je vais permettre de quelques règles, en fait, pour essayer de limiter ou de se protéger de la triche, si on veut. Alors, une des plus évidentes qui peut paraître, c'est connaître les règles du jeu et pas avoir peur de vérifier. Alors, même nous, ça nous arrive encore régulièrement de se dire, ok, est-ce que cette action se passe avant cette phase? Est-ce que, Bruno, qu'est-ce que t'en penses? Regarde, on est dans cette situation, qu'est-ce qui te paraît le plus juste? Faut pas avoir peur, de toute façon, il n'y a personne qui connaît les règles, et puis avec la FAQ qui sort régulièrement, les règles changent. Pas avoir peur de prendre 3 minutes pour vérifier, de demander l'avis autour de soi, c'est comme ça qu'on va limiter la casse. Une des règles aussi pour limiter, c'est de mettre les règles de table au clair avant de commencer. Et alors, pour illustrer ça, je vais prendre un exemple de deux personnes qui sont actuellement au micro et qui ont fait une petite partie récemment. Donc, Bruno et moi-même. Alors, on n'est pas des tricheurs. Et pourtant, durant une de nos dernières... notre dernière partie, d'ailleurs, je crois.
Oui.
Il s'est passé une drôle de situation. Alors, pour expliquer, en fait, il s'avère que Bruno... Donc, je venais de lancer mes dés d'attaque. Et Bruno vient de lancer ses dés de défense. Et il a un dé qui sort du tapis de jeu. Donc, Bruno, sans hésitation, pof, il le relance. Et là, comble de malchance, il retombe encore à côté du tapis. Et là, il le reprend tout de suite et il le relance. Et là, il est sur le tapis. Et ce qui est le plus drôle dans l'histoire, c'est que les deux premiers roulés, c'était des blancs. Et dès qu'il est sur le tapis, c'est un evade. Sauf que Bruno a fait ça tellement rapidement. Il a fait ça plus rapidement que...
Que l'éclair.
En moins de temps qu'il faut pour dire X-Wing. Et dans ma tête, moi, je comprenais pas. Je me suis dit, mais attends, pourquoi est-ce qu'il relance ces blancs? Parce que pour moi, les deux dés étaient légitimes. Le dé était facile à lire, etc. Et alors que pour toi, Bruno, c'était, moi, dans ma tête, il faut que le dé, pour qu'il soit legit, soit dans l'aire de jeu.
Sur le tapis, exact. J'ai toujours joué comme ça.
C'est ça. Et en fait, c'est tout simple. Que ça soit moi ou que ça soit toi, on n'était pas en triche. Mais moi, du coup, je me suis retrouvé dans une mauvaise disposition en disant, Bruno, il vient d'évader un de mes hits, alors que deux fois de suite, il a eu un blanc. Et ça aurait pu...
Oui.
Bon, là, nous, on se connaît, donc je veux dire, il s'est rien passé, il n'y a rien eu. Mais imaginons que la partie...
On s'est expliqué, hein, tout simplement.
Oui, oui, non, mais imaginons que la partie soit serrée. Imaginons que tu gagnes pour un hit. Je veux t'assurer que là, Donc, n'hésitez pas à clarifier les choses ou à clarifier à la première situation. Ok, le dé, il est sur l'astéroïde. Ok, est-ce que pour toi, il est ok? D'accord. Donc, on va dire que si le dé, il est sur l'astéroïde, qu'on arrive à lire correctement le truc, on le valide. N'hésitez pas à clarifier, je veux dire.
Très important, il faut communiquer au maximum.
Voilà. J'espère que vous avez pris des notes, parce qu'une des façons de se prémunir de la triche, c'est évidemment de connaître les manières de tricher. Donc Bruno vous a fait une liste, évidemment, une interro dans une semaine. Vous avez une semaine pour toutes les apprendre par cœur. Un point que Bruno devrait faire graver sur un template et qu'il devrait afficher dans son bureau tout le temps, c'est de ne pas faire plusieurs choses en même temps et être attentif à ce qui se passe sur la table.
Tout à fait.
Donc évidemment, c'est sûr que si vous êtes concentré sur votre partie, bah, ça sera plus difficile de se faire prendre. Enfin, ça sera plus difficile que vous soyez pris au dépourvu. Alors une que je préfère, et ça c'est ma préférée, c'est garder l'air de jeu propre. Donc moi personnellement, j'aime bien enlever les roulettes de déplacement, les tokens, pour que tout soit le plus clean possible. Et j'aime pas vraiment quand certains prennent la partie du plateau pour mettre un peu leur équipement. Alors, y a des gens qui vont tasser leur équipement sur le bas du plateau, mais alors qu'il y a la place, hein, je veux dire, en tournoi, des fois, c'est différent, mais là, il y a la place. Et du coup, toute la zone du bas de plateau, la zone de déploiement chez lui, ça devient son endroit où il a mis tous les tokens, etc.
Ça diminue l'arrêt de jeu un peu.
Ouais,
moi,
puis c'est super stressant parce que toi, t'as peut-être envie d'aller là-bas, quoi, et tu te sens gêné, tu fais, bon, ok, il est où l'astéroïde ou pas? Bon, après, j'avoue que. Je suis un petit peu barjot sur les bords parce que moi-même, je stresse quand je vois un tableau de travers et je suis pas à l'aise. Je suis un peu taré à ce niveau-là.
Bah écoute, Julien, moi, je suis dans ton équipe pour ça parce que je déteste ça, quelqu'un qui il fait ses manœuvres puis il laisse la roulette de manœuvre à côté de son vaisseau ou qui va laisser le template. Il a fait son 3 hard puis il va laisser son template-là. Ça me dérange pour vrai. Moi-même, je suis la première personne à enlever l'équipement de mon adversaire et y mettre dans ses affaires parce que ça n'a pas d'affaires là. Ça me dérange.
Alors, ça n'a aucune valeur scientifique, mais pour avoir fait quelques essais, on s'amusait à faire des essais avec ma conjointe. Lorsque, au début de la partie, vous placez vos astéroïdes, beaucoup de gens prennent le template 2 pour les placer correctement, etc. En fait, il s'avère qu'il y a une technique de manipulation qui est que l'endroit où vous ne souhaitez pas qu'il y ait d'astéroïdes, laissez traîner votre template. Vous placez, vous laissez traîner votre template à l'endroit où vous ne voulez pas que votre adversaire mette un astéroïde.
Oh,
et il s'avère que ça fonctionne. Alors pas dans tous les cas, surtout pas si vous jouez contre moi, parce que moi si je vois un template qui traîne, je vais mettre un astéroïde là.
Tu vas le danser.
Mais voilà, donc c'est vraiment dans l'idée, garder le jeu propre, faites en sorte que l'air de jeu soit le plus propre.
Mais tu sais quoi, Julien, là on est 100% dans la manipulation mentale.
On est complètement. Mais là, ça serait le sujet d'un podcast et même le sujet d'une thèse quasiment. Quoi.
Un autre sujet.
Une autre manière de se prémunir, c'est d'être à l'affût en parlant beaucoup et en posant des questions. Donc là, dans l'idée, c'est pas de tanner votre adversaire avec qu'est-ce qu'il a mangé ce matin. C'est plutôt, n'hésitez pas à demander qu'est-ce qui se passe. D'ailleurs, la plupart des joueurs que j'ai rencontrés sont ravis d'expliquer leur action. Imaginez en plus si c'est un combo que eux ont créé. Alors là, ils sont encore plus ravis de vous l'expliquer. Donc n'hésitez pas à... Tiens, t'as un target lock, pourquoi? Bah, c'est parce que j'ai fait une manœuvre verte et que j'ai le droïde qui me dit que quand je fais une manœuvre verte, c'est bon, j'ai un target lock. Ce genre de choses, n'hésitez pas.
Oui.
Une autre façon, alors là, c'est quelque chose qu'il faut que j'applique moi plus souvent, c'est énoncer les phases de jeu à haute voix.
Oui.
Tout simplement parce qu'il y a des triggers qui sont début de phase de combat, fin de phase de combat, avant le nettoiement. Tous ces triggers-là, il faut absolument, pour se les rappeler, déjà dire les phases à haute voix, mais surtout, ça permet de calmer un peu le jeu. Si jamais vous avez un adversaire qui bouge le dernier, tire le premier, pour éviter qu'il en cède, dès qu'il a bougé, vous faites « Ok, stop, début de phase de combat, qu'est-ce qu'on fait ?» Ça va l'obliger à ralentir, ça va le déranger un peu.
Ouais. Ben, tu vois, Julien, dans le même ordre d'idée, faut pas avoir peur de ralentir le jeu et d'affirmer quand une phase a été sautée. C'est super important, parce qu'il y a des joueurs qui jouent vite, c'est une tactique. Fait qu'il faut pas avoir peur de ralentir le jeu, puis attends, non, wow, on commence la phase de combat, tu prends une seconde, tu regardes tes cartes, « Ah, il se passe ça, moi, à la phase de combat. » Tu fais tes choses. « End phase, c'est la fin de la phase. Il se passe ça. » Là, la personne va tout de suite vouloir aller jouer dans ses roulettes, machin. Fait faut pas avoir peur de ralentir le jeu.
Absolument, absolument.
Un autre, c'est faut pas avoir peur de bouger autour de la table. Tu sais, si tu te promènes beaucoup, là, c'est sûr que dans les tournois, souvent, il n'y a pas beaucoup de place, mais dans les ligues ou dans des petits tournois, faut pas avoir peur de se promener. Si l'adversaire, il sent que tu es autour de lui constamment, ben c'est un déterrent aussi à tricher.
Effectivement. Là, pour les prochains points, on va rentrer dans les trucs un petit peu plus zone grise. On va parler des joueurs maladroits lors des bumps. Ils placent les vaisseaux un petit peu n'importe comment ou les choses comme ça. L'idée ici, c'est de ne pas hésiter à parler avec lui, essayer de lui dire de faire attention, lui expliquer peut-être aussi, parce que la personne ne se rend peut-être pas compte. C'est peut-être sa deuxième partie, elle ne se rend pas compte de l'importance des arcs de tir. Pas hésiter à proposer son aide pour placer les vaisseaux. Avant qu'il lâche tout, essayer de dire « Attends, là, moi, je suis moyennement d'accord. » Ça, c'est la partie un petit peu zone grise, parce que c'est pas évident. Je sais qu'il y a des joueurs qui jouent tellement pour le plaisir que placer correctement le vaisseau, c'est peut-être complètement annexe.
Ouais.
Ça rejoint après encore un point, c'est être précis dans ses manœuvres et s'assurer que l'adversaire le soit. Pas forcément évident à détecter, encore plus si l'adversaire décide de tricher légèrement en pas cotant complètement son vaisseau contre son template.
Ben, d'où l'importance, Julien, d'observer, d'être attentif absolument à la partie, puis de bouger autour de la table. Il met ses mains pour te cacher. tasse-toi, va à côté de lui et regarde qu'est-ce qu'il fait. Il faut pas se gêner là.
Là, on va parler dans la phase. Là, les deux derniers points qu'on va aborder, c'est le moment où vous dites wait a minute, bonhomme. Là, c'est un peu too much ce qui se passe. Là, c'est vraiment la phase. Ok, mon gars, là, c'est vraiment douteux ce que tu fais. Donc l'idée c'est de dire à ton adversaire, ok, là je commence à te suspecter sur un truc, je vais commencer à jeter un œil sur toi, à te surveiller. Là on commence à rentrer dans les cas extrêmes. C'est sûr que si on arrive à ce stade-là, en général, il n'y a pas une super ambiance autour de la table. Là le but c'est de terminer la partie avec le manière la plus clean possible. Ça c'est vraiment la phase, c'est ok mon gars, là maintenant je vais te surveiller parce que ça fait 4 fois que t'aurais dû bumper, c'est pas possible qu'il se passe. Et enfin, le dernier point, c'est pas être gêné d'appeler le juge. C'est pas forcément pour les cas de triche. N'hésitez pas si vous avez un doute, parce que mal comprendre une carte, mal interpréter une carte, ça arrive à tout le monde. Moi-même ou Bruno même et n'importe qui. D'ailleurs, on a déjà construit des escouades et on arrive quand on joue. Puis là, on nous dit, bah non, la carte, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et là, ton escadron, il est complètement nul parce que c'est pas la carte, elle est pas bonne. Pas hésiter à appeler le juge ou à demander à des gens qui sont très calés autour. Et est-ce que tu peux me confirmer juste que c'est comme ça qu'elle se joue cette carte, que c'est comme ça que ça fonctionne? Les gens sont là pour ça. Et on joue en général entre gens intelligents et que votre adversaire sera d'autant plus rassuré s'il est sûr aussi que lui, ce qu'il fait, c'est légitime. Peut-être ça vous est déjà arrivé. Moi, ça m'est déjà arrivé de gagner une partie, d'arriver sur la partie d'après. Et là, j'étais totalement confiant. Et là, sur la partie d'après, j'apprends que j'ai mal joué ma carte et que du coup, ça aurait pu changer complètement la partie. Je peux vous assurer que j'étais pas très à l'aise. Est-ce qu'on considère ça comme de la triche? J'avais vraiment pas intention. C'est vraiment comme ça que j'avais compris la carte. Donc, n'hésitez pas, appelez le juge. Enfin, ils sont là pour ça.
Puis il faut pas se laisser intimider non plus par un adversaire qui va l'appeler pour tout puis rien. Moi, ça m'est arrivé. Le juge a dû venir à peu près 8 fois dans ma partie pour des arcs de tir, des distances. J'étais là, ben voyons donc, qu'est-ce qui se passe là? Ça te sort de ta game un peu aussi. Faut pas se laisser avoir par ça. Faut pas avoir peur de l'appeler. Faut pas se laisser avoir par l'autre qui l'appelle tout le temps non plus pour tout pis rien. Mais là, encore là, on est dans les jeux de l'esprit, de la manipulation mentale. C'est une façon de déconcentrer quelqu'un. Ça nous amène à notre prochain point, Julien, qui est comment réagir. C'est beau, là, tu détectes le comportement chez ton adversaire, tu dis ah, « c'est vrai, il triche, je le vois, je l'ai vu. » Qu'est-ce que tu fais?
Ok, donc là, normalement, à ce stade d'émission, si vous vous êtes pas endormi et que vous êtes toujours avec nous, vous vous attendez normalement à ce que je sorte une formule magique en vous disant « c'est ça la solution, c'est comme ça qu'il faut faire ». Bah, je suis bien désolé, mais malheureusement, je n'ai pas la solution. Ça dépend tellement de votre façon d'être, de l'importance que vous donnez à la partie. Le problème, c'est que, sauf sur tomber sur une personne pas très fine, t'as toujours une zone d'ombre qui plane. Tout le monde a déjà accroché des vaisseaux. Alors comment savoir si ce qu'il a fait l'adversaire, c'est intentionnel ou pas? J'ai personnellement fait des parties qui sont complètement indécentes au niveau des résultats de mes dés.
Oui, Julien, j'étais là.
Pour autant, mes dés ne sont pas pipés, ils sont légitimes, c'est des dés officiels. C'est juste que sur cette partie, l'ange des dés, le seigneur des dés était derrière moi et a joué à ma faveur. Pour être sûr qu'une personne triche, c'est compliqué en général, on n'a pas toujours une caméra qui filme, etc. Et souvent, on s'en rend compte après. C'est vrai que lorsqu'on parle entre nous et on trouve, tiens, c'est marrant, moi j'ai eu ce mec-là, qu'est-ce qu'il a eu comme chance sur les dés, c'était insolent. Et puis là, t'as deux, trois personnes qui font, ouais, c'est marrant, moi aussi, au niveau des dés, c'était moyen. Voilà, c'est une des manières, mais là encore, c'était après, vous faites quoi? J'ai tendance, moi, personnellement, à faire confiance aux gens et à laisser toujours le bénéfice du doute. C'est sûr que le cas comme le Word, où la situation est claire, nette, filmée, 10 000 personnes, c'est rarement le cas. Alors qu'est-ce qu'on fait au juste? Personnellement, et là, ce que je vais aborder maintenant, la partie, c'est comment est-ce que moi je me comporte, si ça peut donner des pistes à certains. Moi, je joue à X-Wing pour le fun. J'ai mon travail à côté, j'ai ma vie qui est faite. X-Wing, c'est vraiment juste pour m'amener du plaisir, même si des fois, je pense un peu trop à cœur. J'essaye de faire en sorte que ça reste un jeu. Et alors, ce que je fais, c'est quand je vois qu'il y a quelque chose qui est étrange, pas forcément que mon adversaire triche, j'essaye d'en rire avec mon adversaire. Eh, dis donc, mon gars, tu pilotes quand même super bien, ça fait 3 fois que j'aurais dit, putain, mince, tu bump, et alors là, pas du tout. Je vois, non, bravo. C'est toi qui aurais dû être engagé dans les films, plutôt. Ou alors, waouh, dis donc, si cette partie t'aider, te veut te faire plaisir, ou des choses comme ça. J'essaye d'amener ça sur le ton de l'humour. Souvent, les gars en face de moi sont de bonne foi. Donc, tu sais, je veux dire, quand tes dés roulent bien, faut être honnête avec soi. Le dernier tournoi en a été un exemple. Ça mène une bonne ambiance.
Mais on n'est pas en situation de triche.
On n'est pas en situation de triche, mais le problème, c'est que si ton adversaire triche, et c'est bien là qu'est important, avoir fait la remarque, ça va lui titiller l'esprit en lui disant « Hey, il me fait la remarque, il est en train de repérer que je suis peut-être en train d'abuser de mon truc. Je vais peut-être me calmer, voire m'arrêter. » Voilà.
Ben oui, effectivement, parce que ça tombe exactement dans ce qu'on disait tantôt, que si tu te sens observé, tu auras moins tendance à tricher. Mais tu vois, toi, tu es dans l'approche positive, hein? Tu vas rire avec lui, tu vas essayer de le désamorcer. Moi, je réagis moins bien. Moi, je suis plus dans l'impulsivité, puis je suis une personne qui n'a pas beaucoup de filtres. Je dis ce que je ressens, puis je dis ce que je vois. Puis souvent, j'ai pas beaucoup de tact, malheureusement. Mais ça me sert quand je joue avec Swing contre des tricheurs parce que je deviens comme un peu, pas mauvais, mais je deviens bête. T'sais? Puis je dis, hey, ça se peut pas ce que t'as fait là? T'es-tu sûr de ça? Je trouve ça vraiment bizarre que ça fait 3 fois que tu manques d'astéroïdes. C'est drôle, moi j'avais vu un bump à ce coup-là, puis ça fait comme 3 fois là, que tu bumpes pas, puis tu me ponges tout le temps un Ranger à la bonne place. Comment ça se fait? Puis les personnes finissent par se dire, oh, ok, une minute, là, je vais ralentir là, parce que ce gars-là, il va péter les plombs bientôt, là. Mais j'aimerais ça être comme toi, être capable. Moi, intrinsèquement, là, ça vient me chercher, quelqu'un qui me triche. Puis j'ai pas le doute sur tout le monde, mais à un moment donné, je suis pas plus con qu'un autre, puis je finis par le voir, là, t'sais. Puis en plus, on en parle, hein, on a discuté des façons de tricher, on a nos expériences de vie de triche contre nous. On a nous-mêmes souvent eu des opportunités de tricher qu'on a pris ou qu'on n'a pas pris. Fait que je le vois, là. Ça fait assez longtemps que je joue avec Swing pour comprendre quand quelqu'un, du moins, d'avoir un doute sérieux sur quelqu'un qui triche. Moi, je réagis moins bien que toi. Fait que je vais le dire tout de suite que j'ai un doute. Je vais faire sentir à l'autre personne que j'aime pas ça. Moi, je vais agir. Comment moi, je vais agir? Premièrement, la première chose que j'ai faite quand j'ai agi, c'est que j'ai adopté les comportements qu'on a dit tantôt. Tu sais, tout ça, là, qu'est-ce qu'on a dit, là, connaître les règles, mettre les règles de table au clair, connaître les méthodes de triche, être attentif, mais même si je le fais jamais, pas faire plusieurs choses en même temps, garder l'air de travail. Tu sais, bouger autour de la table, être à l'affût de ce qui se passe, puis ainsi de suite, dire aux joueurs maladroits de faire attention. Ça, je l'ai fait avec le temps, mais moi, je suis pas une victime passive. Puis je pense qu'il faut pas, dans ces cas-là, il faut pas être passif. Il faut réagir.
C'est pas parce que moi je le fais avec le sourire que je suis passif.
Mais t'es pas.
C'est.
Non, 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 mais non, t'es pas une victime passive, toi non plus, là. Non, c'est pas ça que je veux dire, là.
Mais après, faut aussi pas non plus dénigrer les personnes qui sont passives, qui se disent, bon, oh, il triche, il a envie de gagner comme ça, bah laisse-le faire. C'est.
Non.
Moi, je pense.
Ah, ben non, ben non, ben non. Je te parle de moi, là.
Votre façon de réagir à la triche, ça va vraiment dépendre de comment vous ressentez le jeu. Faut pas oublier que X-Wing, ça reste un jeu quand même assez de niche. Finalement, on n'est pas si nombreux que ça. C'est pas le cœur où il y a 10 000 dollars de cash prize. Il y a absolument rien à gagner. Je connais aucun tournoi où il y a de l'argent à gagner. Bon, il y a des prix à gagner qui peuvent être revendus. C'est sûr que si vous allez aux Mondiaux, que vous gagnez les dés, bah, vous gagnerez 150 dollars. Mais ça vous aura coûté 800 dollars de week-end. Je sais pas si c'est rentable.
Pas besoin d'être violent dans ta réaction. Tu dis, je suis pas une victime passive. Toi, t'es pas passif, t'es dans l'humour. Ça marche. Moi, je suis pas passif. Je suis un peu dans les réactions bêtes. Pas besoin d'être violent. Faut juste montrer qu'on suit la partie puis qu'on est conscient de ce qui se passe. Puis les gens qui décident de pas réagir volontairement, c'est correct aussi. Peut-être que la personne pour lui, c'est pas important. Puis c'est correct. Qui gagne? Ça lui fait plaisir de gagner en trichant. Qui gagne? Tant mieux pour lui. Ben, moi, je dis bravo à ces personnes-là. T'sais. Moi, ça vient me chercher. En dedans de moi, quand quelqu'un triche, c'est contre mes valeurs, je suis pas capable.
Ouais, j'ai le même problème. Pour conclure, dans tous les cas, je reprendrai la réplique de Han Solo dans l'épisode 6, Fly Casual.
Fly casual. Comment qu'il dit en français? Vol décontracté?
Ouais, c'est ça. Je crois que c'est vol l'air décontracté.
Ah, ok, d'accord. Ben, bonne transition, Julien, merci. Parce que c'était pas un sujet qui était facile à aborder. Je pense qu'on a réussi à rester prudent. On s'est basé sur des faits, ou du moins sur des. Avec le moins d'interprétations personnelles possible. T'sais, on a cherché dans la documentation, dans les articles, qu'est-ce qui était disponible, du moins rapidement. On n'a pas rien inventé. Puis imaginez-vous, en plus, on n'a même pas abordé l'aspect de la manipulation mentale dans ça. Est-ce que c'est tricher d'essayer de manipuler mon adversaire de façon mentale ou influencer son comportement, ou c'est juste d'utiliser toutes les tactiques possibles? Encore là, on en a pour 4 épisodes à juste parler de la manipulation mentale. J'espère que vous avez apprécié notre niveau de discussion puis l'angle qu'on a pris pour parler de ça parce que c'était pas un sujet facile. On vous invite à venir échanger sur ce sujet-là, la triche, évidemment de façon constructive, hein. Le but, c'est d'avoir des discussions constructives sur notre groupe de discussion Facebook, qui est le groupe Millénaire Condor Balado Diffusion. Vous pouvez également nous contacter par notre courriel de l'émission qui est millenniumdiffusion@commercial.gmail.com. Donc, Julien, peut-être que tu as quelque chose à rajouter. Sinon, ben, on vous remercie. Puis on espère vous revoir au cours des prochains épisodes.
Absolument pas. Je pense qu'on a fait le tour complet. Je remercie à tout le monde qui est encore là à nous écouter, d'avoir tenu jusqu'au bout.
Pour des discussions X-Wing en français, nous sommes Millennium Condor Balado Diffusion.